Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu.
Satan est menteur, prince du mensonge, homicide dès l'origine. Satan a falsifié l'image de Dieu et nous a fait croire en un faux Dieu. Satan nous a fait croire que Dieu était jaloux, d'une jalousie qui possède tout, d'une jalousie qui réserve tout pour lui. Et Satan nous a fait croire que nous serions libres le jour où nous serons indépendants. C'est le fils cadet de la parabole qui veut prendre son indépendance pour être libre. Il découvrira amèrement que cette liberté n'est qu'une illusion et le conduit au désastre, à la ruine, à la perte. Le fils aîné, lui, regardait Dieu comme le justicier, comme un Dieu pharaon, un Dieu qui exige tout, qu'il faut servir servilement, qu'il faut apaiser par un service continu. Mais quand le fils cadet reviendra et que le frère découvre la miséricorde du Père, il refuse, il ne peut pas lui-même entrer dans cette miséricorde. Jésus est venu dans le monde pour faire connaître le vrai visage du Père. Jésus est le visage même du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Jésus vient rétablir la vérité. Non seulement le Père ne compte pas, mais il donne largement. Il permet même de pécher. Il n'empêche pas les hommes de pécher. Il ne m'interdit pas de pécher. Grande question terrible. Pourquoi donc permet-il le mal ? Pourquoi donc permet-il le péché ? Parce que ce sera pour lui l'occasion de montrer sa miséricorde, de manifester une miséricorde plus grande que les désastres du péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Non seulement il ne refuse pas le pécheur, mais il l'accueille sans réserve. Il est bouleversé dans ses entrailles. On dit dans la traduction, il est saisi de compassion, mais c'est beaucoup plus que cela. Il est bouleversé dans ses tripes, comme un père, comme une mère, qui est remuée au fond d'elle-même quand elle voit son fils qui est perdu dans la drogue, dans l'alcool, dans la pornographie, dans toutes sortes de désastres. Dieu n'est pas lointain, il se penche sur le cœur brisé. C'est lui-même qui a un cœur brisé. Non seulement il pardonne, mais il aime. On dirait que le péché provoque en lui un amour plus grand encore. Il recouvre le péché par un torrent de miséricorde. Il répond au mal par le bien. C'est trop peu dire qu'il pardonne. Il aime jusqu'à la folie. Non, il aime jusqu'à la mort. Dieu ne fait jamais de reproche. Quand on sent un reproche sur soi, c'est Satan qui nous désigne, c'est Satan qui nous dénonce, c'est Satan qui nous accuse. Or, ils l'ont vaincu, l'accusateur de nos frères, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Oui, son amour est jaloux, mais son amour est jaloux contre Satan, son amour est jaloux contre le mal. La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, on le voyait avec Moïse tout à l'heure. On savait que Dieu finalement renoncerait au mal qu'il avait décidé de faire. On avait compris que Dieu pardonnait. Mais avec Jésus, on va découvrir beaucoup plus que cela. Non seulement Dieu pardonne, mais il aime encore plus le pécheur pour l'attirer à lui. Sa vengeance, c'est sa miséricorde. La puissance, la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de la miséricorde de Dieu, se manifeste par sa patience. Il patiente avec le pécheur, il patiente avec moi. Le fils cadet, l'indépendant, le dissipateur des biens du Père, a faim. Il se rend bien compte qu'il a perdu. Alors il rentre chez son Père conscient d'avoir péché, conscient d'avoir fait une faute contre son père, mais surtout, il a faim et il cherche à manger. Il devra accepter de se laisser aimer. Il devra accepter humblement de se laisser serrer sur le cœur de son père. Et quand il verra l'émotion de son père, il découvrira la gravité de son péché qu'il n'a pas compris encore. C'est l'amour de son père qui dévoilera en lui la réalité de son péché. Alors, sa pénitence à lui, ce sera de s'asseoir à la table des noces, de revêtir le vêtement qui est réservé pour lui. Le fils aîné, ce sera peut-être plus difficile encore pour lui. Oui, il est fidèle, mais il calcule. Il calcule les services rendus. Il note sur un carnet soigneusement ce qu'il a fait pour son père. « mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi. Pouvais-je savoir que tu réclamais un chevreau pour tes amis avec qui tu voulais festoyer ? Pouvais-je savoir que tu me cachais quelque chose que tu aurais voulu que je te donne et que je t'aurais donné comme je l'ai donné à ton frère ?» Le frère aîné imite Dieu tel qu'il le voit. Il voyait un Dieu justicier, souverain, lointain. Le frère aîné voit son frère cadet lointain. En réalité, il le refuse. « Ton fils, dit-il, qui a dépensé ton bien avec des filles. » Mais le frère aîné ne se considère pas non plus comme un fils. Il se considère comme un esclave, il se considère comme un salarié. Il se prend à son propre piège. Il devra humblement retourner à la maison du père en acceptant son frère. Le fera-t-il ? La question est ouverte pour nous. En réalité, le frère aîné, le véritable frère aîné, c'est le fils unique du père, qui non seulement ne refuse pas le retour de son frère cadet, mais qui va dire à son père, « Père, moi je vais y aller chercher le fils, je vais aller chercher mon frère, je vais aller le chercher et même je vais payer la rançon. » Le fils unique du père, c'est ce frère aîné qui vient nous chercher, nous, les cadets. Il vient prendre notre place dans l'abîme de la déchéance. Il vient prendre notre place dans l'abîme jusqu'à connaître l'absence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il prend notre place jusqu'à mourir pour nous, à notre place, pour que nous puissions vivre. Lui, le frère aîné, qui s'est fait péché, identifié à notre péché, il est l'objet de la miséricorde du Père, plus encore que nous. Cette miséricorde tellement puissante qu'il ressuscite parce qu'il est mort. Il ressuscite, lui qui est vivant, lui qui est la vie. Oui, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la recevoir de nouveau, parce que moi, j'aime. Il va chercher son frère. La première parabole que Jésus donne montre qu'il est capable de quitter 99 pour un seul, parce qu'il est unique. La deuxième parabole insisterait peut-être davantage sur le soin qu'il met à chercher. Cette femme allume une lampe, elle balaye soigneusement la maison pour chercher la pièce, une petite pièce, pas chère, mais qui a du prix à ses yeux. À nous d'aller maintenant avec le frère aîné chercher les fils cadets. À nous qui avons reçu la miséricorde, à nous qui sommes conscients d'être aimés jusqu'à la folie, d'aller maintenant chercher tous ceux qui sont perdus. Allez-vous-en sur les places, cherchez au carrefour tous ceux qui veulent rentrer dans ma maison, tous ceux qui sont invités et qui ne le savent pas. À vous peut-être, mes sœurs, de prendre particulièrement la place de Marie qui cherche pendant 3 jours celui qui est aux affaires de son père. Déjà à 12 ans, il avait commencé d'aller chercher les docteurs de la loi, les scribes, pour leur parler un langage nouveau, pour leur poser des questions qu'ils n'attendaient pas. Marie ne comprend pas. Elle cherche, tourmentée par cette recherche. Marie ne comprendra qu'à la mort de Jésus. Oui, il est aux affaires de son père. À Cana, elle dévoile à Jésus la soif des hommes. Ils n'ont pas de vin, ils sont perdus, laissant à Jésus le soin de savoir ce qu'il faut faire. À nous tous, la mission de consoler le Père, de faire la joie du Père. Nous ferons la joie du Père en nous laissant aimer tels que nous sommes, pécheurs, pauvres, fragiles, mauvais, mais tellement aimés. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer tel que tu es, puisque c'est la joie de ton Père. N'empêche pas le Père de se réjouir parce qu'il t'aime. Accepte son pardon sans regard sur toi-même, sans te regarder. Ne renonce pas à la sainteté qu'il veut pour toi. Il l'a payée si cher. Il la paye de sa vie. Avec lui maintenant, va sur les chemins pour chercher tout ce qui manque à l'appel. Marie te conduira. Marie t'indiquera ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde, ceux qui sont le plus loin, ceux qui ont le plus soif. Tous ensemble, d'un seul cœur, serrons-nous contre la Vierge Marie, le visage de la tendresse de Dieu, pour qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions communier à son amour insensé, insondable. Amen.